Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado « Rencontrer les manges-gardiens ». Le gaspillage alimentaire est un lourd fardeau, autant économique, social et écologique. L'ONU estime que le tiers de la nourriture produite est gaspillée à travers le monde. Des aliments sont discrédités tout au long de la chaîne agroalimentaire pour différentes raisons. Une forme moins intéressante, une date dépassée ou de légères imperfections. On nous demande souvent, mais en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous espérons que ce podcast répondra à cette question et vous donnera envie de vous impliquer dans la lutte au gaspillage alimentaire comme le font déjà beaucoup d'autres manges-gardiens, c'est-à-dire des gens qui respectent assez la nourriture pour tenter de la sauver des poubelles.
Aujourd'hui, je reçois Marie-Jacques Rouleau, qui est la fondatrice et la formatrice d'Une plante à la fois.
Bonne écoute!
Bonjour Marie-Jacques.
Bonjour Gabrielle, merci pour l'invitation.
Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es venue nous parler d'un super projet qui s'appelle Une plante à la fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce beau projet-là?
Une plante à la fois, c'est un parcours d'apprentissage sur les plantes sauvages comestibles. Donc, j'enseigne aux gens à reconnaître, à identifier, à trouver, à cueillir, à cuisiner les comestibles sauvages. Ça se passe en ligne. C'est sur une plateforme de formation en ligne. C'est des vidéos préenregistrées. Je présente une plante différente à tous les 10 jours. C'est toute une série de courtes capsules vidéo avec accompagnées de documents détaillés, qui permet aux gens d'apprendre de façon autonome, à leur rythme, au moment qui leur convient. Et c'est vraiment une formation, même si ça se passe en ligne, sous forme de vidéos préenregistrées, c'est axé sur la pratique. Okay. Donc, j'invite les gens à chaque 10 jours à aller dehors, à aller rencontrer la plante que je leur ai présentée, puis à en faire connaissance avec elle, puis à en faire l'expérience en cuisine et au niveau de la cueillette. Donc, en gros, c'est ça le projet « Une plante à la fois ».
OK, donc c'est bien parce que ça s'adapte vraiment selon l'horaire des gens. On peut suivre le cours un peu quand on veut dans notre horaire.
Et les gens peuvent écouter les vidéos en accéléré s'ils trouvent que je parle pas assez vite. ils peuvent le consommer en petites bouchées, une vidéo par jour ou faire du binge-watching puis le regarder. Il y a une de mes participantes, elle dit, moi, elle dit, je te regarde le samedi soir. Elle dit, t'es ma télé du samedi soir. Ouais, je trouve ça très comique. Mais tu sais, même si ça se passe à distance, en vidéo préenregistrée, c'est vraiment une expérience où on est quand même en contact relativement étroit et en direct. Tous ensemble, tu sais, ça fonctionne sous mode de cohorte. Donc, une cohorte qui a débuté au mois de juin, 35 personnes qui se sont inscrites. Et il y a un groupe Facebook privé où il y a beaucoup d'échanges entre les participants et avec moi. Et à tous les mois, on se rencontre en direct sur Zoom pour une session de questions-réponses, mais aussi... C'est super intéressant ces rencontres-là parce que souvent ça déborde un peu du sujet. Tu sais, on rentre dans l'autonomie alimentaire.
Ouais.
Et là, on rentre dans des notions d'agroforesterie, de jardinage, de permaculture. C'est ce qui est super intéressant, c'est que il y a une intelligence collective, tu sais, dans la cohorte.
Ouais.
Il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes d'expertises qui sont connexes au sujet. Dans le groupe, j'ai une agronome, j'ai une inspectrice en salubrité du MAPAC, j'ai une ancienne agricultrice qui faisait des paniers de légumes bio, j'ai une personne qui a une formation en biologie, j'en ai une autre qui fait des aménagements de territoire avec des comestibles, avec des enseignants au primaire. Fait que tout ça ensemble fait en sorte que ces discussions-là qu'on a à tous les mois, même si on ne se rencontre pas en personne. C'est super riche. Puis il y a même des personnes, justement, dans la région de Québec. Moi, je suis située géographiquement, moi, je suis dans Lanaudière, à Sainte-Julienne.
Mm-hmm. Okay.
Il y a 3 personnes dans mon groupe en ce moment qui sont dans ta région, à Québec.
Oui.
Et ces 3 filles-là ne se connaissaient pas. On fait connaissance grâce à une plante à la fois. Et là, maintenant, elles vont faire des cueillettes ensemble. Elles se rencontrent physiquement pour aller cueillir. Puis c'est un défi, hein, faire de la cueillette de comestibles sauvages en ville, en milieu urbain.
Mm-hmm. Oui.
C'est pas facile. Et là, les 3 ensemble, elles mettent toutes leurs connaissances du territoire puis leurs ressources ensemble pour relever ce défi-là. Puis ma foi, elles arrivent à faire des miracles. Je trouve ça super intéressant de les regarder aller. Ouais.
Mais je savais pas cette portion-là du projet parce que c'est ça, je me disais, bon, ben tu sais, c'est le fun parce que c'est à distance, mais c'est ça, ça crée peut-être moins de liens entre les participants. Tant mieux si ça permet aux gens quand même de se croiser puis d'avoir des discussions enrichissantes. Puis justement, c'est venu d'où cette idée de projet-là?
C'est venu d'où? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Moi, ma passion par rapport aux comestibles sauvages me vient de ma maman. C'est un héritage maternel. Ma mère m'enseignait ça quand j'étais tout petite. Mes parents ont une ancienne ferme quand j'avais 7 ans, là, en Montérégie. On allait là tous les week-ends, toutes les vacances d'été. Mon père habite encore là, il a 90 ans. C'est une vingtaine d'acres de terrain, puis je vais régulièrement faire de la cueillette là quand je vais voir mon père. Mais c'est ça, ça me vient de ma mère. Mais tu sais, moi j'enseigne en ligne le marketing numérique aux artistes puis aux travailleurs culturels depuis 2010. C'est mon métier, la formation en ligne. À la première année de la COVID, je me suis fait un cadeau. Je me suis inscrite à une formation qui est offerte par l'Association forestière de Lanaudière dans ma région, qui existe depuis une dizaine d'années. C'est un des 3 endroits au Québec où il y a une formation de ce type-là, où ils enseignent aux gens à devenir des cueilleurs professionnels dans un contexte commercial. C'est comme un domaine en émergence là, pour revaloriser finalement le contenu des forêts autres que les pâtes et papiers puis le bois d'œuvre là. Tu sais, c'est tout ce qui se mange et ce qui est médicinal aussi qui est en forêt qu'on peut cueillir pour en faire du commerce, que ce soit vendre ça chez des restaurateurs, que ce soit fabriquer soi-même des produits puis les mettre sur le marché, etc. Il y a plein de choses à faire. Avec ça, c'est une formation qui dure 1 an pour laquelle on doit dédier tous nos dimanches pendant 1 an. C'est quand même assez intense et assez exigeant. Ça faisait plusieurs années que je la regardais du coin de l'œil parce que le sujet me passionne. J'ai jamais eu l'intention de devenir une cueilleuse commerciale. C'est plus par intérêt personnel que je voulais m'inscrire à ça. Je trouvais ça quand même intense de me dédier tous les dimanches pendant 1 an. Je trouvais que c'était un long marathon. Mais j'ai décidé de le faire. La première année de la COVID, ils ont fait un switch, évidemment, parce qu'il y a la moitié des cours qui se donnent sur le terrain, l'autre moitié qui se donne en salle de classe. La partie qui se donnait en classe, évidemment, ça s'est donné sur Zoom. Écoute, Gabriel, de 9 h à 4 h le dimanche sur Zoom, un dimanche sur deux,
Ouf.
je capotais.
Ah
Fallait
oh,
vraiment que le sujet me passionne
non.
pour que je me fasse subir ça. Et là, je me suis dit, Colin, si je regardais mes collègues dans le cours, plus de la moitié d'entre nous, on n'avait aucune intention de devenir des cueilleurs professionnels. C'est vraiment parce que le sujet nous intéressait qu'on était là. Et je me suis dit, il y aurait de la place pour de la formation pour les gens qui font de la cueillette récréative. Et surtout, de la place pour une autre manière d'enseigner ça, même à distance, de façon beaucoup plus digestible, avec un rythme plus respectueux de la charge mentale des gens.
Pas de 9 à 4 un dimanche.
Exactement. Puis je me suis dit, ça pourrait tellement se faire en vidéo préenregistrée que les gens pourraient réécouter à leur guise et tout ça. Fait que c'est un petit peu de là qu'est venue l'idée, un peu en réaction à cette formation-là que j'ai eue par ailleurs. J'ai adoré ça, là. Tu sais, j'ai vraiment trippé ma vie, puis je le recommande à n'importe qui voudrait devenir cueilleur commercial d'aller la suivre, là. Mais c'est ça, je voyais qu'il y avait de la place pour une autre formule, et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'une plante à la fois.
Hey, c'est vraiment intéressant, mais je me trompe ou l'idée de la cueillette commerciale, il n'y a pas un petit danger environnemental parce que justement, quand on cueille pour soi, ben nécessairement, on cueille des plus petites quantités, mais quand on commence à cueillir des grosses quantités, ça peut être dangereux au niveau des plantes parce qu'il y a une idée de régénérescence, là, tu connais probablement plus ça que moi.
Bien, on a vu toutes les dérives qu'il y a eu par rapport au fameux cas de l'ail des bois, hein, qui est maintenant une plante vulnérable et en voie de disparition, qui est protégée par des lois au Québec parce qu'il y a eu des cueillettes abusives par des gens qui en vendaient. L'appât du gain a dépassé le sens de l'éthique de la cueillette. Oui, c'est sûr qu'il y a des dangers par rapport à ça, mais tu sais, la formation, étant donné que c'est donné par l'Association forestière de Lanaudière, toute la question de l'éthique puis du respect de l'écologie des plantes, ça faisait partie de ce qu'on nous a enseigné. Et d'ailleurs, cette formation-là, elle est offerte aussi en partenariat avec la SADC de la Matawinie. Et il y a un comité qui a été mis sur place là, par un paquet d'instances dans ma région. Il y a un comité PFNL, produits forestiers non ligneux. C'est comme ça qu'on appelle dans le milieu commercial les plantes sauvages nordiques comestibles. Et il y a un comité PFNL qui a rédigé un code d'éthique du cueilleur. Maintenant, les gens sont tenus de signer de leur sang. Bon, j'exagère. Sont tenus de signer ce code d'éthique-là pour pouvoir bénéficier, c'est ça, de la visibilité, de la mise en marché qui est offerte par le comité PFNL et tout ça. T'sais, si tu veux faire partie du grand réseau, il faut que tu ailles adhérer au code d'éthique du cueilleur. Et maintenant, un code d'éthique aussi qui a été créé pour les personnes comme moi qui donnent de la formation, qui va s'adresser aussi au monsieur, madame, tout le monde qui fait de la cueillette récréative. Donc, il y a vraiment tout un effort de conscientisation qui est fait à ce niveau-là. Pour chacune des plantes que je présente son écologie, son mode de reproduction, j'explique si c'est une plante qui est vulnérable ou pas. J'explique c'est quoi les modes de cueillette adéquats. C'est une partie intégrante très importante de ce que je présente.
Il y a vraiment un souci derrière ça de respecter l'environnement et de ne pas faire un peu à l'image de notre agriculture industrielle et de tout ramasser, de rien laisser derrière. Ce n'est pas ça du tout. Là. Il y a vraiment un
Non.
souci de l'environnement.
L'environnement puis les écosystèmes, on n'est pas les seuls, hein, à se nourrir de la forêt. Je veux dire, il y a des insectes, des animaux qui ont
Oui.
besoin aussi de ces végétaux-là. Il faut les considérer aussi. C'est comme par exemple une des plantes que j'ai présentées cette année, c'est l'asclépiade, qui est en écologie très intime avec le papillon monarque. Alors, c'est sûr que je ne pouvais pas parler de l'asclépiade sans parler du monarque. Il
Oui,
fallait que
évidemment.
j'explique très clairement le lien étroit entre ces deux êtres vivants-là pour s'assurer de faire une cueillette consciente. C'est juste un exemple.
Mais là, en fait, j'aimerais savoir le lien étroit entre le gaspillage alimentaire et la cueillette des plantes. Parce que probablement que les gens qui nous écoutent en ce moment se demandent pourquoi, dans un
Pourquoi je suis
podcast
là?
sur le gaspillage alimentaire, on parle de cueillette de plantes. Donc, c'est quoi le lien que tu vois entre ces deux sujets-là?
C'est que la cueillette nous ramène à la source de c'est quoi qu'on mange, puis d'où ça vient. C'est ça, c'est la nature qui nous nourrit. Puis je trouve que quand on va chercher notre nourriture au supermarché, on le perd de vue, ça, que ça vient de la nature. Parce que quand tu arrives au supermarché, c'est un bâtiment éclairé au néon, avec une petite musique. Puis tout est bien emballé, là, tu sais, dans des beaux petits emballages marketing avec du plastique, du carton, puis des imprimés, puis tout ça. C'est comme s'il y a une perte de contact avec la source de notre nourriture. Puis tout est tellement facile d'accès. Il manque de quelque chose. Je prends mon auto, je m'en vais à l'épicerie, puis je vais le chercher. C'est là, c'est facile. Tu
Oui.
sais, je peux avoir accès à de la nourriture qui vient de je sais pas combien de kilomètres, c'est loin de chez nous, puis des citrons, des bananes, en ouais donc, puis c'est là. Puis si j'en gaspille, ben entre guillemets, c'est pas grave, j'ai juste à retourner à l'épicerie m'en chercher d'autres. Il y a l'augmentation des coûts là, de la nourriture à l'épicerie qui vient atténuer un peu cet effet-là, mais quand même, quand tu vas chercher directement ta nourriture dans la nature, le rapport change. C'est comme si on retrouvait le sens du sacré d'une certaine façon. Tu vois où est-ce que la plante pousse. Tu vois si elle est en santé ou pas. Tu vois s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu. Tu vois si elle est affectée par les phénomènes météo. Y a-t-il une sécheresse? Y a-t-il trop de pluie, des inondations? Est-ce qu'il y a eu trop de froid? Tu vois l'impact que les phénomènes climatiques vont avoir sur ta plante. Et là, ça devient tout d'un coup précieux parce que tu as fait des efforts pour aller la chercher. C'est une chasse au trésor, hein, la cueillette de comestibles sauvages.
Oui.
C'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours facile. Des fois, quand tu reviens à la maison, tu as l'impression d'avoir un butin, là. Tu sais,
Ouais,
c'est
OK.
précieux ce que tu as ramené. Tu peux pas le, ben, tu pourrais le gaspiller, mais Colin, moi, les rares fois où ça m'arrive, je me tape sur les doigts, je me dis,
Oui.
j'avais pas le droit de gaspiller ça. Je l'ai prélevé de son milieu naturel, je l'ai amené chez moi. Moi, ce que j'enseigne aux gens, souvent, c'est même, on parlait d'éthique de la cueillette tout à l'heure, je leur enseigne un peu comme le fait la métisse. Je sais pas si tu connais la métisse, Isabelle Falardeau,
Non.
qui a écrit des très beaux ouvrages sur les usages autochtones des plantes médicinales au Québec. Et elle, au niveau de l'éthique de la cueillette, elle va plus loin que de juste respecter l'écologie de la plante, c'est de carrément demander la permission à la plante de
OK.
l'accueillir. C'est un être avec lequel on est en relation. Et on est très loin de ça quand on va chercher notre paquet de patates pilées toutes faites à l'épicerie. Tu sais,
Non, non,
c'est.
c'est de la consommation. C'est pas,
Voilà.
on est des consommateurs, on n'est pas des mangeurs.
Exactement.
Voilà, ouais.
Exactement. Fait que c'est un petit peu, je dirais, c'est. La cueillette sauvage, ça va peut-être être un peu comparable au jardinage. T'sais, les
OK.
gens qui font l'effort de jardiner, qui ont mis de l'huile de bras puis beaucoup d'amour dans leur jardin, ils vont faire attention de ne pas gaspiller aussi, je pense, le fruit de
Oui, c'est
leur
ça.
récolte. C'est un peu le même principe. Ça nous permet de retrouver un rapport à la nourriture qui est beaucoup plus intime. Et moi, ce que je remarque, c'est que j'ai fait une série de vidéos sur le pissenlit parce qu'en automne, c'est le temps de la récolte des racines. J'adore les racines de pissenlit pour me faire un succès d'année de café. Et oui, c'est absolument délicieux. Du café de pissenlit, Gabrielle, si tu n'as jamais goûté à ça, je te souhaite d'y goûter. C'est vraiment délicieux. Écoute, la somme de travail. Le pissenlit va habituellement pousser dans des sols compactés parce que c'est une de ses super pouvoirs, c'est de décompacter les sols. Fait que amène ta fourche, déracine-le, le pissenlit. C'est de l'ouvrage. Après ça, faut que tu nettoies ça. C'est plein de terre. Puis c'est plein de petites anfractuosités. Puis tu veux pas que ton café de pissenlit ait du sable dedans. Fait que envoie la brosse à légumes. puis longtemps. Puis après ça, il faut que tu le coupes en petits morceaux. Tu le laisses sécher. Il faut que tu y trouves une place quelque part dans ta cuisine pour faire sécher tes morceaux de racines de pissenlit pendant une semaine ou deux, le temps qu'ils durcissent. Puis après ça, il faut que tu le fasses torréfier pendant 20 minutes dans ton four. Okay. Puis là, ça sent le caramel dans ta maison. C'est génial.
Et puis sans lit qui sent le caramel, ça m'intéresse.
Oui, okay. Je te jure. Et une fois qu'il est torréfié, là, après ça, tu vas le passer au moulin à café. Après toutes ces étapes-là, tu peux te faire du café de pissenlit.
Mais c'est dommage. Puis ça se met dans une machine, mettons, à espresso ou comme ça?
Hein? Je l'ai jamais essayé dans une machine à espresso. Ça sera à vérifier. Moi, j'utilise une cafetière bottom.
Une cafetière bottom. OK, OK.
Ouais, mais tout le travail que ça prend, ce que j'exprimais dans la capsule vidéo où je fais le témoignage de la cueillette de la racine de pissenlit, c'est que quand tu fais ça, tu ne retournes plus jamais acheter un sac de café en grains de la même façon à l'épicerie. Parce que tu te dis, OK, si moi, pour me faire un succès d'année de café, je dois travailler comme ça. C'est gratuit, là, la ressource est gratuite, le pissenlit, ça ne coûte rien dans le champ. Là. Mm-hmm. Mais tout le temps, le travail, l'amour, le doigté, l'expertise que tu développes pour le faire et qu'il soit bon, pour remplacer le café que tu achètes à l'épicerie, tu te dis, OK, ben le café, OK, mettons, je l'achète bio, équitable, le plus cher, là. Moi, je trouve que c'est pas cher. C'est un petit peu comme pour le jardinage. C'est quand tu te rends compte de tout le travail que ça implique, de remplacer quelque chose que tu trouves à l'épicerie par quelque chose que tu vas cueillir toi-même, tu vois plus ce que tu vas chercher à l'épicerie de la même façon.
Non, c'est ça, c'est d'apporter un nouveau respect à la nourriture, carrément. Puis donc, quand on respecte la nourriture, souvent, on a moins tendance à la gaspiller, évidemment. Dans le cas de la cueillette, tout l'effort que ça a pris d'aller la trouver, de la préparer, là, tu donnais l'exemple du café, du succès d'année de café. Hey, c'est super intéressant. Est-ce que tu en as d'autres, des petites idées de plats? Parce que des fois, je pense que les gens peuvent se dire, OK, oui, d'aller cueillir des plantes dans la nature, je peux peut-être me faire des salades. Je pense que c'est peut-être la première idée que les gens ont en pensant à des plantes. Mais est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant qu'on peut faire avec ce qu'on trouve dans la nature, à part du succès d'année de café?
À part des succès d'année de café, bien, il y a toutes les tisanes, les infusions qui sont super faciles. Bon, tu l'as mentionné tantôt, les choses qu'on peut intégrer dans nos salades, qu'on peut manger crues, tu sais, ça, c'est les plus faciles. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai acheté des pestos. Je me fais des pestos maison là, avec... Écoute, cette année, je suis allée chercher de la fleur d'ail chez un producteur de fleurs d'ail. Puis là, il y avait comme une quantité incroyable de chénopodes blancs au bout de son champ, c'est qui poussait là. Okay. Comme de la mauvaise herbe, là, tu sais. Je me dis, oh my God, le pesto fleur d'ail et chénopodes blancs, ça serait extraordinaire. Fait qu'il y a beaucoup de gaspillage, entre guillemets, là aussi, tu sais.
Ben oui.
Fait que j'ai demandé à l'agricultrice, tu sais, tu me permets-tu de cueillir de ton chénopodes blanc, tu sais, de ton chou gras? Ben, elle dit, tu cueilles ça, toi? Je dis, ben, certain. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je dis, ben, avec ta fleur d'ail, je vais faire du pesto cet après-midi, tu sais.
Wow.
Elle n'en revenait pas. Mais le chénopodes blanc, c'est plus nutritif que l'épinard, tu sais.
Ah, oui.
On jette ça.
Pression, là, on jette pas nos choux gras, mais.
Ben, ça vient de là.
On le jette dans le fond.
Il y a beaucoup de jardiniers qui vont désherber le chou gras pour pouvoir faire pousser leurs épinards. Mais tu sais, c'est absurde parce que le chou gras, il est plus nutritif que l'épinard.
Ah!
Fait que c'est... Mais bon, les pestos, bon, il y a toutes les soupes, les potages, il y a un paquet de légumes racines qu'on peut mettre dans des ragoûts, il y a un paquet d'aromates aussi qu'on peut utiliser créativement en cuisine. Tu peux faire aussi des conserves, des marinades, des lactofermentations. On peut faire des fois des desserts.
Desserts?
Oui, absolument.
Okay, donc, il y a un potentiel qu'on imagine même pas dans nos forêts et ailleurs aussi. Justement, tantôt, tu parlais de la difficulté de cueillir en ville. Quelles précautions il faut prendre pour cueillir en ville? Ça doit être différent dans la nature parce qu'on a les poussières ambiantes, il y a des autoroutes proches. C'est quoi les précautions qu'il faut prendre?
Il faut surtout s'assurer qu'on ne cueille pas dans un sol qui est contaminé. Donc, il y a souvent une petite recherche à faire là-dessus. J'ai su, grâce à mes participantes là, de Montréal et de Québec, qui sont très à l'affût de ça, qu'il existe des cartes, des inventaires des sols contaminés en milieu urbain.
OK.
C'est des données qui sont publiques. Donc, il y a ça à vérifier. Bon, tu l'as nommé tantôt, les poussières et tout ça. Il faut chercher les friches, les terrains vagues qui sont un peu en bordure, là, souvent des milieux urbains. Souvent, ça implique de se déplacer quand même un peu, puis des fois même de sortir un peu de la ville puis d'aller plus en banlieue. Mais tu sais, il faut vérifier aussi les règlements municipaux au niveau des parcs. Par exemple, à Montréal, on pourrait être très tenté d'aller sur le Mont-Royal faire de la cueillette là. Tu sais, il y a des beaux milieux sauvages dans ce coin-là. Puis je suis sûre qu'il doit y avoir un paquet de beaux parcs dans le coin de Québec aussi. Il faut vérifier les règlements municipaux parce que je sais qu'entre autres à Montréal, tout ce qui est considéré comme étant un grand parc, la cueillette est interdite. Parce qu'ils ont souvent, les parcs, une genre de mission de conservation. T'sais. Comme c'est le cas, par exemple, pour les parcs de la CEPAC, où la majorité d'entre eux, la cueillette est interdite, sauf pour quelques exceptions. Il y a quelques parcs de la CEPAC qui sont considérés comme des réserves où tu peux, à certaines périodes de l'année, aller faire de la chasse de petits gibiers. Et ils
Oui.
vont permettre aussi la cueillette de champignons, par exemple, de différents petits fruits d'automne ou de fin d'été qu'on peut cueillir. Mais c'est ça. Oui, il y a
OK.
plein de précautions, tant du côté sain de la plante, on ne veut pas non plus absorber des toxines, mais aussi du côté légal, tu sais, est-ce qu'on a le droit
C'est
d'aller
ça.
cueillir là?
Ah, OK, oui, c'est des considérations à prendre. Puis, par exemple, si on habite, moi, personnellement, dans mon cas, j'habite à côté d'une autoroute, donc une autoroute à peu près à 500 mètres de chez moi. Même si j'y lave comme il faut, je pourrais pas nécessairement cueillir les pissenlits dans mon jardin pour me faire un succédané de café parce que peut-être que la plante aurait absorbé des toxines.
Oui, le pissenlit, c'est un champion pour absorber les métaux lourds.
Ah!
T'sais, s'il absorbe les métaux lourds, il absorbe aussi un paquet d'autres affaires. C'est important, le pissenlit, de le cueillir dans un sol qui est sain. Tu vois, moi, je me pète les bretelles parce que je vais cueillir le mien chez mon fermier de famille qui cultive les légumes bio. Fait que mon pissenlit est bio. Je pourrais mettre une étiquette
Ben
dessus sur mon pot de café de pissenlit.
oui.
Mais je sais pas, je serais curieuse de savoir combien ça coûte faire une analyse de sol. D'aller apporter un petit échantillon de ton terrain dans un laboratoire quelque part pour savoir, tu
Ouais.
sais, c'est quoi le degré de contaminant qu'il y a dedans. Ça
Ouais,
pourrait
ça
être
serait.
intéressant à faire comme exercice.
Ben oui, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a accès à un terrain qui est loin des centres urbains, des autoroutes, des routes. C'est là, il faut vérifier si c'est légal d'aller cueillir à tel endroit. Donc, c'est quand même une démarche qui est pas nécessairement évidente pour des gens qui habitent en ville. Parce qu'il faut qu'on s'éloigne, mais là, il faut qu'on s'assure que où est-ce qu'on va cueillir, c'est légal. Ça peut être peut-être intéressant de regarder notre terrain, est-ce qu'il est contaminé beaucoup?
Aussi est correct. Il existe aussi pour la ville de Québec, je pourrais t'envoyer le lien là. Il existe un répertoire interactif des arbres. Tu es capable de savoir, mettons, je pourrais faire une recherche dans ce site web-là sur les tilleuls. Je veux savoir où sont les tilleuls à Québec. Alors, ce site web-là permet de répertorier les arbres sur le territoire de Québec en fonction de l'essence d'arbre. Fait que, mettons que tu veux faire, c'est la période de la récolte des fleurs de tilleul, tu veux trouver un tilleul en ville, ben, tu es capable de trouver sur quel terrain il y a des tilleuls. Ou par exemple, ça pourrait être des pommiers, des prunier, n'importe quel arbre fruitier. Il y a plein de propriétaires de terrains qui ont des arbres qui produisent des fruits, des noix, des fleurs. Ils ne les cueillent pas. Ça fait partie du gaspillage alimentaire aussi, d'une certaine façon. Alors, si toi, tu veux organiser, je ne sais pas moi, une sortie de cueillette de pommes sur le territoire de la ville de Québec, ben, tu peux savoir où sont les pommiers et contacter les propriétaires de ces pommiers-là et leur demander l'autorisation d'aller cueillir chez eux. Moi, c'est ma façon préférée, hein, de trouver, de dépister des nouveaux lieux de cueillette. C'est de trouver, mettons, la talle de tête de violon sur le bord de la rivière dans mon village et là, de dire, OK, à qui appartient ce terrain? De trouver la propriétaire, d'aller cogner à sa porte puis lui dire, Allô, madame, est-ce que je peux aller cueillir des têtes de violon chez toi? Serais-tu OK avec ça? Et je me suis fait des amis en faisant ça. Jusqu'à date, il n'y a personne qui m'a dit non. Je touche du bois, là. Je suis un peu étonnée. C'est une merveilleuse façon d'entrer en contact avec les gens. Les gens sont un peu surpris de se faire demander une chose comme celle-là. Ça arrive pas à tous les jours, là, qu'on se fait demander ça. Puis les gens, souvent, ils vont dire, mais un peu comme l'agricultrice de fleurs d'ail dont je te parlais tantôt, qui me disait, pourquoi tu cueilles ça? À partir du moment où tu expliques ce que tu fais avec la plante que tu veux cueillir chez lui, ou le fruit, ou la noix, ou peu importe, là, ils font comme, ah, tu leur enseignes quelque chose par rapport à ce qu'il y a sur leur terrain qu'ils ne savaient pas. Et là, il y a un échange qui se crée avec la personne. Puis là, tu dis, moi, la madame chez qui je vais cueillir des têtes de violon, là, j'y retourne à chaque année. Chaque printemps, elle est contente de me revoir. Tu sais, hey, Marie-Jeanne, comment ça va? Puis là, moi, je fais une cueillette. 50% de ce que je cueille, je lui donne. Alors, elle n'a pas besoin d'aller s'éreinter à aller faire la cueillette sur son terrain. Je le fais pour elle. C'est une forme de partage. Moi, je connais une personne qui a une maison dans Rosemont, à Montréal. Tous les ans, il y a un vieil Italien qui arrive chez eux avec une espèce de bâton télescopique au bout duquel il y a une espèce de lame à émonder, là, qui va chercher les champignons qui poussent à 30 pieds sur son chêne ou son érable. Je me souviens plus quel arbre qu'elle a, là. Le vieil Italien, lui, il a carrément pas demandé la permission.
Oups.
À un moment donné, elle s'est rendue compte en regardant par la fenêtre de sa maison qu'il y avait quelqu'un sur son terrain qui cueillait des champignons à 30 pieds dans les airs. Là, elle était là, mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Astaire, elle est super amie avec. Elle l'accueille à chaque année avec plaisir, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être gêné d'aller demander aux gens la permission d'aller cueillir chez eux.
J'avais l'impression que c'était très solitaire comme activité de cueillette, parce que c'est ça, c'est, on va dans le bois, on cherche, c'est un peu une chasse au trésor, mais dans le fond, ça fait créer plein de liens.
Oui. Puis tu peux le faire avec des propriétaires privés, mais tu peux le faire aussi avec des organismes ou des commerces. Par exemple, chez nous, dans le village voisin, il y a une école primaire privée qui est propriétaire d'un grand terrain à flanc de montagne avec plusieurs écosystèmes différents. J'ai communiqué avec la directrice de l'école. Je lui ai demandé si elle m'autorisait à aller faire de la cueillette sur son terrain. Je lui ai expliqué comment je faisais ça, puis pourquoi, puis tout ça. Et là, elle m'a dit, écoute, tu peux venir quand tu veux, sauf quand les élèves sont présents, pas pendant les heures de classe, mais... Tout le reste, tu peux venir, tu as mon autorisation. Puis là, ben, elle a donné mon nom à des professeurs de sciences. Et là, je me suis fait proposer d'aller donner des ateliers aux élèves.
Oh,
fait que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver en allant frapper à la porte puis dire « Je peux-tu aller cueillir chez vous? » Dans ce même secteur-là, il y a une entreprise récréo-touristique, là, Arbre en arbre. Ben, c'est la même chose, eux autres, ils ont un super beau grand boisé avec des grands pins, puis tu sais, il y a un écosystème super intéressant, entre autres pour les champignons, là, puis même chose, j'ai été cogner à la porte, puis dire « Hey, je peux-tu venir cueillir chez vous? » Puis ils ont dit oui, puis... Fait que faut pas se gêner de demander aux gens. Je trouve que c'est la meilleure façon aussi en même temps de conscientiser le plus grand nombre de gens possible sur qu'est-ce qui est possible. Puis là, c'est chez eux, tu sais, c'est leur territoire.
Comme tu dis, c'est un peu de l'éducation en même temps, parce que les gens sont surpris de se faire dire « il y a cette ressource-là sur mon terrain, je le savais même pas. » OK, wow, j'aurais jamais pensé à ça. Tu parlais dans ton coin qu'il y avait du chénopode blanc proche d'un endroit où tu prends des fleurs d'ail. Mais ça, ces genres de plantes-là, est-ce qu'on les retrouve partout? Ils varient vraiment selon les endroits au Québec?
Il y a des plantes qui sont généralistes, dans le sens où tu vas les trouver vraiment partout au Québec jusqu'à Bay James. Là, je pense entre autres au myrique baumier. Il y a vraiment des plantes que tu vas trouver partout, partout. Le pissenlit, ça se trouve partout où il y a des gens. Puis il y a des plantes qui sont plus des spécialistes de certaines régions, comme il y a des plantes du bord du fleuve qui ont besoin d'un milieu salin pour pouvoir vivre. Fait que, tu sais, dans ma région, il n'y a pas de salicorne. Je pourrais pas cueillir de salicorne à Sainte-Julienne, c'est sûr. Il y a des plantes que je vais pouvoir trouver, comme par exemple le rosier rugueux. Je vais pouvoir en trouver dans mon coin, mais jamais autant qu'à partir de Québec, en longeant le fleuve là, vers le nord. Il y a des plantes qui sont spécialisées au milieu nordique, comme par exemple la chicoutée. T'sais, je ne pourrais jamais cueillir de chicoutée à Sainte-Julienne. Il faut aller sur la côte nord pour trouver de la chicoutée. Le thé du Labrador, j'en trouve un peu dans mon coin, mais jamais des grosses talles comme j'en ai vu à Natashquan. Ça, il y a des plantes qu'on trouve partout. Le chénopode blanc, c'est une plante qu'on trouve partout dans les jardins, dans les plates-bandes. C'est une mauvaise herbe. Fait que ça, tu vas la trouver partout au Québec où des gens font des cultures. Là. Ça dépend vraiment des espèces, là.
Fait, j'imagine, étant donné qu'il y a du monde un peu partout au Québec qui te suivent, tu dois prendre ça en considération dans ta formation. Puis justement, par exemple, le chénopode blanc, franchement, moi, personnellement, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Est-ce qu'on pourrait le confondre avec une autre plante qui est toxique? Comment tu t'assures que les gens qui te suivent sont en sécurité puis ne mangent pas une plante qui est toxique? Parce que je pense qu'il y a ça aussi dans la cueillette qui peut effrayer les gens sur « ben là, je veux pas m'empoisonner ».
Oui, c'est un enjeu important. Oui, puis ça, puis au niveau des champignons aussi. Il y a des champignons et il y a des plantes aussi qui sont toxiques mortelles au Québec.
Okay.
Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. T'sais, ça s'est vu, là, des gens qui sont morts, de s'être trompés, de ne pas avoir bien identifié ce qu'ils ont mangé. Sur une plante à la fois, j'enseigne ce que j'appelle le principe de la banane. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un cueilleur américain qui s'appelle Samuel Thayer que j'avais vu en entrevue sur YouTube qui disait « On ne devrait jamais manger quelque chose qu'on a trouvé dans la nature à moins d'avoir la certitude viscérale de savoir ce que c'est avec la même confiance qu'on peut reconnaître une banane au supermarché.
Okay. »
Ce que je leur dis à mes étudiants, c'est « Tant que cette plante-là, c'est pas une banane pour toi, tu la manges pas. » Tu te pratiques à l'identifier, à essayer de la reconnaître, mais si c'est pas une banane, métaphoriquement parlant, tu la manges pas. Dans les vidéos que je fournis sur chacune des plantes à tous les 10 jours, il y a toujours une vidéo sur l'identification, vraiment axée là-dessus. J'ai plusieurs thématiques dans les vidéos, je les décortique toutes par thématique. Il y a où trouver la plante, comment respecter son écologie puis l'accueillir de manière éthique, comment l'employer en cuisine. J'ai un volet médicinal aussi. J'ai une collaboratrice qui est herboriste accréditée qui amène le volet aussi comment se soigner avec ce qu'on cueille. Mais la partie identification, je fais très attention justement d'aller dans le plus de détails possible et de façon très visuelle sur comment qu'elle look la plante,
Oui.
comment qu'elle look au printemps, à l'été, à l'automne, dans toutes ces étapes de maturation. Des fois, une plante peut avoir des aspects très différents selon si elle pousse à l'ombre ou au soleil, comme par exemple le pissenlit. Essaye d'identifier du pissenlit quand il n'est pas en fleur. Tu as juste le feuillage. C'est pas simple, hein?
C'est
Il y a plein
moi-même
de...
le pissenlit, c'est pas une banane dans ce cas-là, là.
Non, c'est pas une banane pour grand monde. Quand tu veux le cueillir très tôt au printemps ou tard à l'automne, quand les fleurs sont pas là. Et le pissenlit qui pousse à l'ombre aura pas du tout la même gueule que le pissenlit qui pousse au soleil. Puis il goûtera pas la même affaire non plus. Fait que tu sais, je vais vraiment dans ces détails-là, puis je présente du mieux que je peux toutes les plantes sosies ou qui peuvent ressembler, puis je fais pareil, pas pareil, là, tu sais, je les compte. Et je fournis plein de ressources supplémentaires, que ce soit sur des sites web reconnus comme Phytoprotection, l'Herbier du Québec, tu sais, je les envoie aussi vers d'autres ressources. Pour les champignons, il y a l'excellent site mycoquebec.org où là, tu as accès à plein, 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 plein de photos prises par différents mycologues là, de la même espèce de champignon. L'autre façon aussi que je peux aider les personnes qui s'inscrivent à une plante à la fois, c'est des fois, il y a des gens qui m'envoient des photos de ce qu'ils ont trouvé, tu sais, quand ils ont un doute, puis qui me disent, d'après toi, c'est-tu ça? J'ai-tu trouvé la bonne plante? Des fois, j'arrive à leur dire oui ou non. D'autres fois, je leur dis, ta photo n'est pas suffisante pour que je puisse me prononcer. Je suis très prudente par rapport à ça.
Ben oui. Est-ce
Ouais.
que tu pourrais être
Poursuivi pour
poursuivi si
erreur
jamais
ou omission.
quelqu'un qui est malade?
Je leur demande au tout début de la formation de signer, entre guillemets, une déclaration de non-responsabilité, là, tu sais, parce que la responsabilité leur incombe à
Ben,
eux
c'est
et à
ça.
elles de, tu sais, de correctement identifier. Moi, je suis là pour les aider, pour faire ça le mieux possible, pour leur enseigner des choses, mais c'est chacun qui est responsable de ce qu'il met dans sa bouche, là. Je ne peux pas être tenue responsable
Non, je
de
comprends.
ça. Puis, c'est que j'ai tendance aussi à enseigner des plantes et des champignons qui n'ont pas de sosie mortelle, tu sais.
Ah,
Je
ben oui.
l'ai choisi aussi un peu en
Ben oui.
conséquence là.
Ah, je comprends parce qu'évidemment, tu sais, si on peut facilement se tromper de plante avec une plante mortelle, ben on est juste mieux de ne pas l'accueillir pour être bien, bien, bien sûr, là.
Ouais. Il y a un autre point ou un dernier par rapport au lien entre la cueillette puis le gaspillage alimentaire que j'ai pas abordé. C'est le fait que quand on cuisine avec des choses qu'on a cueillies, on est un petit peu obligé de cuisiner sans recette. On trouve pas ça souvent dans nos livres de recettes, des recettes avec des trucs qu'on trouve dans la nature, là,
Ben
des
non.
oranges d'Amérique ou tu sais, des apios, les patates en
Pesto
chapelet, tu
de
sais,
chez
puis...
Le Pas de Blanc.
Oui,
C'est
c'est ça,
pas ça, là.
exactement. Oui, de plus en plus, ça commence à se démocratiser, à devenir populaire. J'ai vu sur le site de Ricardo à l'occasion des recettes là, avec des plantes sauvages ou des champignons sauvages. T'sais, même Ricardo commence à inclure ça. Mais tu sais, souvent, on n'aura pas tous les ingrédients sous la main et tout ça. Fait que ça nous oblige à cuisiner de façon très créative et à faire avec ce qu'on a sous la main dans notre frigo. Comme une compétence transversale, après ça, qui peut s'appliquer à toute notre bouffe. Là,
Ben oui, ben c'est
pour...
cette créativité-là que ça permet de développer, qu'après on est capable de regarder notre frigo autrement puis de dire, ah ben les feuilles et les fans de ces légumes-là, je peux les cuisiner
Voilà.
en faisant telle, telle chose, de repenser nos fameux tout-ski, ben d'en créer d'autres puis vraiment de partir d'aliments qui sont peut-être plus moches, moins intéressants, mais de créer quelque chose de nouveau puis qui peut être super intéressant au final, là.
Ouais, exactement. Une dernière chose par rapport à la cueillette urbaine. Parmi les personnes qui participent à une plante à la fois, j'en ai qui vivent en banlieue et qui ont voulu laisser pousser leur gazon. Et se faisant découvrir toute la bouffe qui émerge. Quand on laisse en friche là, un terrain qui a été gazonné, tu peux t'alimenter là, à même ton gazon. Tu sais, c'est vraiment formidable.
Juste le
Le pro...
trèfle, je me trompe pas,
Oui,
là, les fleurs
oui.
de trèfle se mangent, là, puis c'est quand même très commun dans nos gazons du trèfle.
Oui, les
Oui.
marguerites.
Les
Les
marguerites.
marguerites, les fraisiers sauvages, les petites violettes, le lierre terrestre. Mon père a arrêté de tondre son gazon il y a 2 ans. Je fournis pas de cueillir tout ce qu'il y a.
Ah ouais.
Mais tu vois, l'enjeu, je trouve, c'est que il y a beaucoup de municipalités qui ne permettent pas de laisser un terrain, surtout les terrains qui sont en devanture, là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui poussent les limites des règlements municipaux. qui font pression pour faire changer ces règlements-là, justement. Si c'était davantage permis et toléré, il y aurait beaucoup plus de possibilités là, de faire une
Oui.
certaine autonomie alimentaire en ville ou en tout cas en milieu semi-urbain, ouais.
Ben, c'est ça, puis surtout le terrain en arrière, la maison en avant, bon, c'est une question de propreté, là, puis d'apparence. Mais en arrière de chez nous, personne ne voit le terrain en arrière, à part nos voisins limitrophes. Donc, ben,
Exactement.
c'est.
Je vois aussi avec les initiatives comme le défi pissenlit, le fameux défi
Oui,
pissenlit, là.
du mois de
Ouais.
mai.
Fait que là, les terrains en ville puis en banlieue deviennent jaunes.
Oui.
C'est super beau, c'est
C'est
magnifique, là, tu
ça.
sais.
T'sais, la ville a été capable de se rendre compte de l'effet positif des pissenlits sur les abeilles. Peut-être que la ville va se rendre compte de l'effet positif de laisser son gazon en friche sur la sécurité alimentaire.
Exactement.
Ben, c'est sûr qu'il y a une éducation quand même à faire parce qu'on ne peut pas cueillir, comme tu dis, n'importe quoi sur notre terrain. Ça peut être des belles découvertes qu'on fait.
On peut rêver.
Oui, on peut rêver. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Jacques, pour ce super moment ensemble. J'ai vraiment beaucoup appris. Ça donne vraiment le goût de s'inscrire à tes cours. Donc, où est-ce qu'on peut les retrouver, justement, tes cours, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent s'inscrire?
Il s'agit d'aller sur le site web www.uneplantealafois.com. Je suis contente que tu en parles parce que justement, normalement, ça fonctionne sous mode de cohorte. Puis je prends les inscriptions au printemps, puis là, on commence un groupe ensemble, on fait tout le parcours de cueillette et de la saison sur 6 mois ensemble. Là, j'ai décidé de faire une petite promotion spéciale de Noël. Ça m'a été demandé par plusieurs personnes parce que l'hiver est une saison vraiment formidable pour étudier et se préparer à l'avance, là, en prévision de la prochaine saison de cueillette. Pour les personnes qui veulent s'inscrire à l'avance, avant le printemps, c'est possible de le faire.
Tu leur montres quand même des plantes, mais ils vont être amenés à les cueillir plus tard.
Exactement.
Est-ce qu'il y a cette idée un peu encore, comme tu disais tantôt, de partage de moments, tout le monde ensemble ou qu'on partage, ou c'est plus individuel à ce moment-là?
Pendant l'hiver, ça va être plus individuel. Il
OK.
va quand même y avoir le groupe Facebook qui va être actif, puis les gens vont pouvoir poser des questions. Mais à partir du mois de mai, là, les rencontres en direct vont reprendre.
Ah, OK. Donc, il y a comme une idée de se préparer au cours qui va durer tout le reste de l'année. Donc, c'est
Oui,
plus qu'un an,
c'est ça.
cette formule-là de cours, c'est ça?
Exactement.
OK. Tu disais qu'il y avait une promotion en ce moment,
Pour
niveau.
les fêtes.
Ah, ben c'est intéressant. Petit cadeau de Noël, des fois, tu sais, au lieu justement d'encourager la surconsommation, on peut offrir un cadeau, un cours en cadeau. Je trouve que c'est toujours une belle idée pour.
Investir en soi, investir en son savoir qu'on peut ensuite transmettre à nos enfants ou à nos petits-enfants. Tu sais, je pense
Vraiment.
que ça vaut beaucoup plus que n'importe quel cossin acheté qui a été fabriqué en Chine puis qui va se retrouver aux poubelles dans 3 ans.
Exactement. C'est super. Mais merci beaucoup, Marie-Jacques, pour cette belle discussion. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup, Gabrielle. C'était vraiment délicieux aussi de mon côté. Merci.
La réalisation de ce balado est possible grâce au financement de la Ville de Québec dans le cadre du projet Mange Gardien, et chapeauté par les Amis de la Terre de Québec.